Alors, ce mois-ci, j'aimerais commencer une série d'études bibliques, Le chrétien et le monde qui l'entoure. Et aujourd'hui, nous allons voir le chrétien et la nourriture. Que doit manger le chrétien? Et bien sûr, ça a l'air un peu léger comme sujet, mais c'est pas si léger que ça, parce qu'on mange toute la journée, enfin certains. Et c'est une préoccupation pour beaucoup de gens, ce qu'on doit manger, ce qu'on ne devrait pas manger. Et on va voir ce que la Bible nous enseigne à ce sujet. Et on va commencer avec un petit historique biblique, la nourriture que Dieu nous a donnée dans la nature. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, verset 29, c'est le récit de la création. Lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a dit ceci. Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et donc, les premiers hommes étaient végétaliens, c'est-à-dire ils ne mangeaient que des herbes, des fruits, des légumes. Et des choses semblables. Et puis, il y a eu, au chapitre 3, la chute, lorsqu'Adam et Ève ont désobéi à l'ordre de Dieu, ils ont mangé de l'arbre interdit, et ça a entraîné des catastrophes terribles dans le monde, sur la terre, dans leur vie, une malédiction sur la nature, le premier meurtre, Caïn qui tue Abel, et une société qui est allée dans la décadence terrible jusqu'à un grand jugement de Dieu. Ce grand jugement, c'est le déluge sous Noé. Et lorsque le déluge se termine et que Noé et sa famille sortent du bateau, de l'arche qu'ils ont construit, que la terre est redevenue sèche, Dieu leur donne autre chose. C'est en Genèse 9, versets 3 et 4. Genèse 9, versets 3 et 4. Tout ce qui se meut et qui a vie, vous servira de nourriture, je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Ici, il y a un changement après le déluge. Alors pourquoi l'homme peut-il devenir carnivore? Peut-il manger de la viande à ce moment-là? La Bible ne dit pas pourquoi. Alors on a cherché, il y a des tentatives d'explication. Une des tentatives, c'est que le climat a changé radicalement, puisqu'il y a des tonnes et des tonnes d'eau qui sont tombées. Il y a donc, c'était fini cette sorte de canopée équatoriale qui faisait qu'on pouvait vivre. On avait 25 degrés sur toute la Terre. Désormais, il y avait des climats chauds, des climats froids, il y avait des tempêtes, il y avait des cyclones, etc. Et l'homme avait besoin peut-être de plus de force pour vivre. En tout cas, c'est à ce moment-là qu'il a commencé à pouvoir manger de la viande. C'est là aussi que son espérance de vie a été diminuée par 8 ou 9. Et que l'homme ne pouvait plus vivre autour de 100 ans. Vous avez remarqué qu'il dit seulement ne mangez pas l'animal avec son sang. Pourquoi est-ce une interdiction très importante dans la Bible? Parce que le sang symbolise la vie. Et toucher au sang et manger le sang, c'est s'approprier la vie, c'est mépriser la vie que Dieu a donnée. Le sang est très précieux aux yeux de Dieu et dans la Bible parce qu'il symbolise cette vie et nous devons respecter la vie. Aujourd'hui, on verse le sang comme on verse un Coca-Cola. Voilà. Mais quand on croit en la Bible et quand on connaît Dieu, le sang est précieux. Le sang, c'est la vie. Et donc, c'est pour ça qu'ils ne devaient pas manger les animaux avec le sang. Les cannibales, qui sont ces peuples ou ces tribus qui avaient l'habitude de manger leurs ennemis, le faisaient pour une raison principale, c'est qu'en mangeant votre ennemi, vous mangez sa force. Voilà. Ce n'était pas simplement parce qu'ils aimaient la viande humaine, hein, les cannibales. C'est parce qu'ils voulaient manger la force et ils se prenaient pour Dieu d'une certaine façon, hein, en mangeant l'autre. Voilà. C'est vraiment horrible, mais ça, pourtant, ça existait. Je pense qu'il n'y a quasiment plus de tribus cannibales. Elles ont toutes plus ou moins se sont arrêtées. Mais le cannibalisme existe. Même dans nos sociétés occidentales, il y a des gens dérangés qui sont des criminels, des psychopathes, hein, qui mangent leurs victimes. Ici, il est interdit de manger un être humain, évidemment. Il est même interdit de verser le sang d'un autre homme. Et il dit, hein, si vous versez le sang d'un autre homme, on vous redemandera son sang, c'est-à-dire vie pour vie. Hein. Et là, ça institue une forme de peine de mort, de gouvernement humain, où le gouvernement humain est appelé à exercer la peine de mort parce que la vie est précieuse, Dieu dit, car Dieu a fait l'homme à son image. Voilà. En touchant à l'homme, vous touchez à Dieu. Vous touchez à quelque chose d'absolument sacré. Par contre, les animaux sont un degré en dessous dans le sacré. L'être humain est fait à l'image de Dieu. Ça n'est jamais dit des animaux. Les animaux ont une âme, comme l'homme. D'ailleurs, c'est le même mot en hébreu. C'est ça qui est intéressant. On a la même âme, quelque part, mais on n'a pas les animaux n'ont pas l'esprit de Dieu qui leur est insufflé. Ils ne sont pas faits à l'image de Dieu comme l'homme. C'est pour ça qu'on pouvait manger les animaux. Dieu a donné les animaux à l'homme, alors que, bien sûr, on ne doit pas verser le sang de l'être humain. Et puis, on continue, Dieu va appeler un peuple à travers un homme, Abraham, et ce peuple, ce seront les Hébreux, qui vont s'appeler ensuite Israël, avec un des descendants d'Abraham, Jacob, et Dieu va leur donner une loi avec Moïse, la fameuse loi de Moïse, la Torah. Et là, Dieu va établir ce qu'ils doivent manger les Israélites. Il y a des animaux purs et des animaux impurs. Donc en Lévitique 11, par exemple, il y a cet ordre très précis. Lévitique 11, c'est un des livres de la loi, un des cinq livres de la loi. Est-ce que vous pouvez me dire les cinq livres de la loi dans l'ordre? Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Bravo, très bien. C'est ça qui forme la Torah. Hein, quand on dit la Torah, ce sont ces cinq livres, le Pentateuque aussi. Alors, Lévitique 11, versets 3 et 4. « Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement ou qui ont la corne fendue seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau qui rumine mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le daman. » Donc le daman, c'est un animal qui existe encore aujourd'hui. C'est une sorte de marmotte ou je ne sais pas, non ? Une sorte de gros rat ou voilà, non ? Rat des... Ah oui, plus comme une marmotte, d'accord. Donc on ne mange pas les animaux comme ça, des champs, n'est-ce pas ? Et mais qui n'a pas la corne fendue, vous le regarderez comme impur, vous ne mangerez pas le lièvre. Alors là, c'est un mot hébreu qui ne veut pas forcément dire le lièvre, parce que les lièvres n'étaient pas en Israël. Alors c'est peut-être un animal qui était au Moyen-Orient et qu'on ne connaît pas dans nos pays. Mais ça a été traduit par Louis II, le lièvre. Vous ne mangerez pas le lièvre qui rumine, parce que le lièvre ne rumine pas vraiment, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair. Vous ne toucherez pas leur corps mort. Vous les regarderez comme impurs. Et puis, même, voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles et qui sont dans les eaux, dans les mers ou les rivières, mais vous aurez en abomination tout ce qui n'a pas des nageoires et des écailles, parmi tout ce qui se meut dans les eaux et tout ce qui est vivant dans les eaux. Voilà. Alors, qu'est-ce qui n'a pas des nageoires et des écailles dans la mer ? Les fruits de mer, hein, les crustacés, comme on dit. Voilà. Et certains, oui, poissons aussi. Les crabes, les huîtres. Donc, pas d'huîtres pour les juifs, hein, pas de crustacés. Alors ça, c'est pour le peuple d'Israël. Hein. Dieu, lorsqu'il a créé le monde animal, il l'a séparé en trois sortes d'animaux. Les animaux des airs, donc les oiseaux, les animaux de la terre et les animaux de la mer. Là, pour l'instant, c'est simple comme séparation. Et les animaux de la terre étaient séparés en trois. Il y avait les animaux domestiques, donc comme la vache qu'on pouvait manger, le mouton, etc. Le chien était un animal impur, parce qu'il n'était pas domestiqué, en fait. C'était plutôt des chiens sauvages, hein, et je ne sais même pas s'il y en avait beaucoup en Israël. On a souvent dans les films bibliques, ou même au temps de Jésus, un petit enfant qui caresse son chien. Ce n'est pas possible. En Israël, il n'y avait pas de chien. C'était un animal totalement impur. Voilà. Donc, dans les animaux terrestres, il y a les animaux domestiques. Il y a les animaux sauvages qu'on ne devait pas manger. Le lion, tout ça. Les carnassiers, et tout ça. Et puis, les insectes et les reptiles. C'était les autres parties. On ne mangeait pas les insectes, sauf un seul qui était toléré, c'est la sauterelle, hein, parce que dans la description, il dit qu'elle avait les pattes attachées, enfin, c'est toute une description très technique dans la Bible. C'est le seul insecte que les Juifs avaient le droit de manger. Une chose aussi qui n'est pas dit, là, ce n'est pas la nourriture, mais les Juifs ne castraient pas les animaux. Donc, il n'y avait pas de bœufs, ils ne castraient pas les ânes, ne castraient pas les chevaux, voilà, pas de castration, on respectait l'animal, même si on l'utilisait pour travailler ou pour le manger. Donc on ne mangeait pas des ânes, pas de chameaux, donc ça limitait quand même pas mal la nourriture. Alors, pourquoi Dieu interdit-il certains animaux et pourquoi fait-il une distinction? Pourquoi est-ce qu'il limite à ce point? La Bible ne donne pas de réponse particulière ou précise à ça, mais c'est en étudiant le texte qu'on se rend compte un petit peu du but de Dieu. Le but de Dieu, c'est que Israël soit différent. Différent des peuples païens qui l'entouraient, qui mangeaient de tout. Et aussi, c'était une façon de protéger Israël contre, par exemple, les charognards qui mangeaient des choses, des animaux morts. Donc, ça pouvait véhiculer des maladies. Certains animaux, comme le porc aussi, qui est vecteur de beaucoup de maladies. Et puis, les crustacés aussi peuvent être vénéneux, peuvent être empoisonnés. Hein. On peut s'empoisonner. Il y en a qui, par exemple, peuvent s'empoisonner avec des huîtres. Mon épouse ne peut plus manger d'huîtres. Elle est immédiatement, affreusement malade si elle touche même une goutte d'huître. Donc, voilà, c'est pour protéger Israël. Aujourd'hui, ça s'appelle la cacheroute. C'est le cachère, tout ce qui est cachère. Et ce n'est pas seulement la nourriture, c'est la façon dont étaient tués les animaux. On devait verser le sang, on ne devait jamais les étouffer. Les païens, eux, avaient toutes sortes de façons de massacrer les animaux avant de les manger, et souvent ils les étouffaient. C'est-à-dire, ou ils les étranglaient, ou ils les étouffaient tout simplement, pour que le sang soit dedans. Parce que les païens aimaient bien faire cuire l'animal dans le sang. Aujourd'hui, ça existe, hein, je crois que c'est le canard au sang. Qui est un mets succulent, paraît-il, dans les grands restaurants. Mais Dieu dit, non, le sang, vous devez le mettre à part, on ne mange pas, on ne boit pas le sang. Et c'est ce qui fait que le cachère a commencé. Le mot cachère se trouve uniquement trois fois dans l'Ancien Testament, en Esther 8:5 par exemple, et ça ne veut pas dire du tout, c'est un pas trait à la nourriture, ça veut dire convenable. Mais ce sont les rabbins, plus tard, qui ont développé toute une théorie sur le cachère et la cacheroute, où il faut tuer rituellement d'une certaine façon, et surtout, aujourd'hui, vous avez du chocolat cachère, vous avez des chewing-gums cachères, bon, là, ça devient un commerce, parce que chaque fois que vous créez un aliment cachère, vous payez quelque chose au rabbinat ou à la synagogue. C'est pareil pour les musulmans, chaque fois que vous mangez de la viande halal, il y a de l'argent qui va à la mosquée. Dieu n'a pas été si loin, il n'a pas voulu de chocolat cachère, d'ailleurs le chocolat n'existait pas, avec le cacao. Mais Dieu a voulu séparer les animaux purs des animaux impurs pour que Israël soit différent des païens et aussi pour qu'ils soient protégés dans leur survie parce que la vie était très rude. Maintenant, nous arrivons à l'époque de Jésus. Le Seigneur Jésus était juif. On en parlait encore, je ne sais pas avec qui, que certaines personnes ont découvert très tard que Jésus était juif, par exemple des gens catholiques. Et, quoi ? Jésus était juif ? Mais ce n'est pas possible. Voilà. Eh bien oui, le Seigneur Jésus était juif. Et donc il devait suivre les lois du peuple juif, les lois de Dieu. Il obéissait à toute la loi de Dieu. Mais vis-à-vis du Shabbat, il se permettait des choses que ne se permettaient pas les rabbins ou les pharisiens. Par exemple, une fois, il a mangé des épis de blé un samedi en voyageant et il a pris quelques épis et ils ont mangé les grains. Et alors, on leur a reproché comment un Shabbat, tu travailles en prenant des épis de blé. Mais ça, c'était pas ce que Dieu avait demandé. Est-ce que c'est vraiment un grand travail de prendre un épi de blé quand vous passez, traversez un champ? C'est pas un travail. Ils n'ont pas pris une faux et fauché tout le champ. Hein, ils ont juste ramassé. Donc, il y avait vraiment cette critique permanente sur Jésus. Mais lui, il s'en tenait à la loi biblique. Il prenait pas la loi des rabbins, il prenait la loi de la Bible. Il mangeait de la viande, bien sûr, et il mangeait du poisson. Jésus mangeait beaucoup de poisson. Pourquoi il mangeait beaucoup de poisson? Voilà, parce qu'il avait des pêcheurs dans ses apôtres. Il était en Galilée, c'était le sang de la Galilée, c'est le lac qui regorgeait de poissons. Donc c'était vraiment une façon facile d'avoir des protéines. Il est probable que Jésus n'a pas bu d'alcool pendant les 3 dernières années de sa vie, de son ministère, parce qu'il était consacré. Or, les juifs consacrés, qu'on appelait les naziréens, devaient s'abstenir de tout alcool et aussi de tout raisin. Ils n'avaient même pas le droit de manger un raisin, parce que ça pouvait être fermenté et devenir de l'alcool. Les naziréens ne pouvaient pas toucher de mort. Alors là, on est un peu étonné, on dit, oui, mais est-ce que Jésus était vraiment naziréen? Parce que il a touché des morts, mais qu'est-ce qu'il a fait quand il touchait les morts? Ben, il revenait à la vie. Donc, voilà. En tout cas, Jésus a levé la coupe lors de le dernier repas, le repas de Pâques, hein, une coupe de vin, mais il n'est pas dit qu'il a bu cette coupe. Il a dit, buvez-en tous, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Après la résurrection, les apôtres évangélise Israël et puis il commence à évangéliser l'Empire romain. Des chrétiens naissent partout, naissent de nouveau dans le monde entier et se pose la question des non-juifs. Est-ce que les non-juifs doivent suivre la loi de Moïse? Est-ce qu'ils doivent avoir les animaux purs, les animaux impurs? Et là, le premier concile de l'Église de Jérusalem, acte 15-29, déclare « Les païens doivent s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles » des animaux étouffés et du sang. Acte 15, 29. Donc, à cette époque-là, quasiment toute la viande était sacrifiée aux idoles. Alors, en Israël, c'était sacrifié à Yahvé, à l'Éternel, mais en dehors d'Israël, c'était sacrifié aux idoles. Donc, quand vous vouliez de la viande, il fallait aller au temple de tel ou tel dieu pour acheter de la viande au temple. Mais petit à petit, la viande est arrivée sur les marchés. Et ça va changer la possibilité d'avoir de la viande. Les gens, au lieu d'aller au temple, pourront acheter la viande au marché. Et on va voir que la Bible donne des indications là-dessus. Donc, en tant que païen, on ne devait pas manger de sang, pas manger de viande sacrifiée aux idoles et pas manger d'animaux étouffés. Ça voulait dire qu'il fallait que l'animal soit tué rituellement en versant son sang. Aujourd'hui, dans les fermes, moi, j'ai déjà vu ça, enfin, dans le temps, on saignait le lapin, on saignait le coq ou la poule, le porc, le mouton, ça se fait naturellement, mais ça vient de la Bible. On ne s'en rend pas compte, mais ça vient de la Bible. Parce que dans le monde païen, on ne saigne pas les animaux, forcément. Ce n'est pas obligatoire. Le cas du vin. Que dit la Bible au sujet du vin? La première mention du vin, c'est Genèse 9. Avec Noé. Noé, sitôt que le déluge est fini, plante une vigne, il fait du vin, il s'enivre et il découvre sa nudité, ses fils le voient nu et ça crée un cataclysme un peu dans la famille, un jugement sur un des fils et ça se finit mal. Alors, Noé savait-il que le jus de raisin allait faire du vin? La Bible ne le précise pas. Beaucoup d'interprètes disent avant le déluge, peut-être que le raisin ne fermentait pas ou pas autant Et donc, on pouvait boire du jus de raisin de sa vigne et ne pas être ivre. Mais là, il fait du jus de raisin, ça fermente, et puis il boit et il ne se rend pas compte que c'est fort et qu'il s'enivre. La Bible, encore une fois, là, on interprète, on interpole, extrapole, plutôt. Et donc, la Bible n'interdit pas le vin, mais elle nous met en garde à de nombreuses reprises. Proverbe 20, verset 1, par exemple. Livre des Proverbes, au milieu de l'Ancien Testament. Le vin est moqueur. Les boissons fortes, donc il n'y a pas que le vin aussi, hein, il y a les alcools, sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Proverbe 23, verset 31. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Un basilic, c'est une forme de serpent venimeux. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mât. On m'a frappé, je n'ai pas de mal. On m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je? J'en veux encore. Donc là, il décrit hein, une personne ivre qui affabule et qui dit n'importe quoi. L'alcool est un fléau mondial, encore plus que la drogue, hein, d'une certaine façon. La drogue crée beaucoup de crimes et de malhonnêteté, mais l'alcool tue beaucoup de gens dans les accidents, dans les violences domestiques, dans les maladies. Et l'alcool est néfaste pour la santé parce que justement on perd conscience et on devient fou, le temps d'une ivresse. Ici, il dit attention au vin. Donc on peut boire un tout petit peu de vin. La Bible ne l'interdit pas. Jésus a changé l'eau en vin lors du mariage de Cana. S'il avait changé l'eau en vin, c'est que c'était permis de boire du vin. Voilà, je ne vois pas pourquoi Jésus aurait fait un péché. Hein. Donc, par contre, il n'est pas dit que Jésus a bu ce vin, mais il a changé l'eau en vin. Il a donné la coupe de vin lors du repas. Il faut aussi savoir qu'à cette époque-là, au Moyen-Orient, on ne buvait pas le vin pur. On buvait le vin mêlé avec de l'eau. 2/3 d'eau, 1/3 de vin. Parfois, 3/4 d'eau, 1/4 de vin, selon. Parce que le vin était très fort. Il fait très chaud dans ces pays. Vous aviez du vin à 15-16 degrés ou 18 degrés. Et donc, ils le mélangeaient. Ça faisait un sirop, en plus, rafraîchissant avec l'eau fraîche. Et c'était très désaltérant. Et ça n'avait pas l'effet néfaste et dangereux de l'alcool. Donc, Dieu n'interdit pas aux chrétiens de boire du vin ou de l'alcool, mais il nous met sévèrement en garde. Romains 13, 13. Paul aux Romains, chapitre 13, verset 13. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie. Au temps de Paul, les dieux romains étaient un prétexte pour faire des orgies. Donc on allait au temple en groupe, hommes et femmes, et il y avait des orgies avec des choses innommables et beaucoup d'alcool, beaucoup de vin, ça coulait à flot pour que les gens, justement, partent. Aujourd'hui, on fait ça dans les boîtes de nuit, on fait ça ailleurs, hein. Il y a plus de temples pour faire ça, mais il y a d'autres endroits. Il y a chez les ados le binge drinking, hein, le but c'est de boire le plus possible, le plus vite, et d'être ivre le plus vite possible. Et c'est quelque chose qui ne peut mener qu'à des choses dangereuses. Si Dieu a créé le vin, et il en parle plusieurs fois dans la Bible, c'est aussi pour réjouir le cœur. Mais il faut une certaine dose pour que ça réjouisse et que ça n'enivre pas. Et il faut être extrêmement sage et extrêmement prudent quand on utilise le vin. Alors, quand même, quand on parle de nourriture, on se pose un certain nombre de questions. On a vu un historique. J'ai essayé de trouver des questions qu'on peut se poser, que je me pose et que peut-être vous vous posez aussi. Est-ce que le chrétien doit être végétarien ou végétalien? est-ce que le chrétien doit s'abstenir de certains aliments? Est-ce qu'on ne doit pas manger de porc, par exemple? Est-ce que le chrétien doit s'abstenir de sang? Et là, on pense tout de suite au boudin noir, avec du raisin. Le chrétien doit-il s'abstenir de vin? Que valent les régimes amincissants, selon la Bible? Faut-il jeûner pour rester en bonne santé? Alors, il y a peut-être d'autres questions que vous avez. Vous pourrez les ajouter après. Hein. Mais je vais juste voir rapidement ces questions-là. Est-ce qu'il faut être végétarien si on est chrétien? La Bible ne dit pas du tout qu'on doit être végétarien. Si on veut être végétarien, c'est votre droit et personne ne vous en empêchera. Dieu ne n'interdit pas d'être végétarien et il n'interdit pas de manger de la viande. Donc vraiment, mais on peut dire oui, mais en étant chrétien, on revient au jardin d'Éden, donc on revient avant le péché. Donc eux, ils ne mangeaient pas de viande avant le péché. Non, on ne revient pas au jardin d'Éden en devenant chrétien. On a toujours le corps, malheureusement, hein, de la malédiction hein, après le péché. Et c'est peut-être dans le ciel qu'on ne mangera plus de viande et d'animaux, ça c'est certain. Mais sur la terre, on peut être amené à manger des animaux. Il y a des protéines animales qui sont difficilement remplaçables. On commence à trouver des choses qui les remplacent, mais c'est plus difficile. Le chrétien doit-il s'abstenir de certains aliments? On va avoir la réponse. La réponse est non. On n'a pas à s'abstenir de certains aliments en particulier. Donc, est-ce qu'on peut manger des crustacés? Oui. Est-ce qu'on peut manger du porc? Oui. Est-ce qu'on peut manger... voilà. Mais ce que je remarque, c'est la question du sang. C'est quand même, c'est dit aux païens, acte 15, de s'abstenir du sang des animaux étouffés. Encore une fois, parce que cette idée que le sang représente la vie, la vie sacrée. Voilà. Et... personnellement, c'est mon interprétation personnelle, je ne prends pas de boudin noir, je ne prends pas de sang. À cause de ce principe de la vie, je respecte la vie, je veux le témoigner. Si je mange un morceau de boudin, je ne vais pas mourir empoisonné, je ne vais pas m'effondrer. Mais c'est vraiment une sorte de témoignage et de principe. Voilà, il y a toujours des gouttelettes de sang dans la viande quand on mange de la viande. Voilà, ce n'est pas quelque chose d'absolu. Mais quand même, la Bible le répète dans le Nouveau Testament. Concernant les viandes sacrifiées, donc là, il y a une précision. La Bible dit de ne pas manger les viandes sacrifiées. Donc, si j'arrive, je vais dans un temple hindou et qu'on me présente un agneau cuit et offert rituellement à Shiva ou à je ne sais quel dieu, je vais refuser poliment. C'est gentil, mais je ne crois pas à ces divinités. Je ne veux pas participer à votre culte. Par contre, si je vais au marché et là qu'on me vend un agneau et moi je ne le sais pas, mais cet agneau vient d'un temple hindou et qu'il a revendu aux commerçants, peu importe, Dieu ne va pas me frapper de sa colère si je mange cet agneau. Il dit « mangez de tout ce qui se vend au marché ». Voilà, on ne va pas commencer à dire d'où vient cette viande. Il y a la question de la viande halal. Il y a des chrétiens qui disent, si c'est halal, ça veut dire que ça a été tué sous la supervision d'un imam, dirigé vers la Mecque, et que l'animal, en plus, n'a pas été anesthésié avant d'être tué. Parce que dans le halal, on n'anesthésie pas l'animal. Il est tué par une pointe hein, qui lui rentre dans la tête. Alors que dans les autres abattoirs, il y a une première, je pense qu'on l'assomme ou on fait quelque chose pour qu'ils ne sentent pas la douleur qui vient après. Alors, un chrétien doit-il manger un animal qui a été tué vers la Mecque sous la supervision d'un imam et dont la viande va servir à payer un impôt à la mosquée? Si vous le trouvez au marché, ça ne va pas vous empoisonner, mais si dans votre conscience vous dites non, je ne veux pas participer à ça, c'est tout à fait votre droit et votre légitimité de dire non, je ne veux pas manger de viande halal. Après, il y a la vente cachère, mais là, c'est plus biblique, si on peut dire. C'est plus ce côté biblique. Une question aussi que j'ai posée à un juif messianique, c'est est-ce que les juifs messianiques s'abstiennent de porc et de viande, de choses, de crustacés par exemple? Est-ce qu'ils suivent la loi de Moïse? Et il a dit, ça dépend desquels, mais nous voulons suivre le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. Et maintenant, on va voir ce que dit la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, sur la nourriture. En fait, elle ne va pas nous donner une liste de ce qu'il faut manger. Elle va nous donner des principes au sujet de la nourriture. Et je crois que ça vaut mieux qu'une liste, parce qu'une liste, c'est toujours imparfait. Premier principe, et c'est le Seigneur qui nous le dit, Marc 7, 18. Évangile de Marc, chapitre 7, verset 18. Jésus dit, « Vous aussi êtes-vous sans intelligence, ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. » Il dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, etc. » Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? C'est que ce que vous mangez ne change pas votre cœur, votre âme. Vous pouvez manger des kilos de viande, vous ne serez pas plus pur ou plus impur, ou plus sain ou moins sain, ou plus... ça ne change rien. Vous pouvez manger macrobiotique, zen, des graines toute la journée, vous ne serez pas plus près de Dieu, plus spirituel. Parce que Jésus dit, c'est pour le ventre, la nourriture c'est pour fonctionner, c'est pour vivre, c'est un carburant. C'est pas spirituel la nourriture, c'est neutre. Et il dit par contre, ce qui souille, c'est ce qui sort, c'est ce qui vient du cœur. Et c'est le cœur qu'il faut préserver, pas le ventre ou le corps. Ce que mon corps ingurgite n'est pas prioritaire. Ce qui compte, c'est ce que mon cœur, mon âme ingurgite. Deuxième grand principe, Romains 14, verset 6. Paul aux Romains, chapitre 14. Verset 6. Alors, on va lire verset 5 pour le contexte. Tel fait une distinction entre les jours. Tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. Et là, quand il dit mange ou ne mange pas, il veut dire des viandes sacrifiées aux idoles, hein, dans le contexte. Donc, il dit, le principe là, chacun peut, doit agir selon sa conviction. Vous avez la conviction qu'il ne faut pas manger de viande. Ben, faites selon votre conviction. Par contre, n'allez pas voir les autres en disant, c'est mauvais de manger de la viande. Vous avez votre conviction. L'autre, à côté, dit, moi, j'ai la conviction que je peux manger de la viande. Mangez de la viande. Et n'imposez pas à tout le monde de manger de la viande. C'est votre conviction. Donc, les deux le font pour le Seigneur. C'est ça l'idée. Il faut se poser la question, est-ce que j'ai des convictions qui viennent de Dieu ou est-ce que j'ai des convictions qui viennent du monde? Par exemple, il y a des régimes qui viennent d'autres pays. Hein. Beaucoup de choses végétariennes viennent de l'Inde. Pourquoi? Parce que dans l'hindouisme, les animaux sont sacrés. Donc, vous ne touchez jamais à la viande. Et donc, on essaye de nous dire, être végétarien ou végétalien, c'est bon pour la santé. Mais en fait, c'est pas ça, c'est religieux, là, pour le coup. C'est une croyance religieuse. Donc, est-ce que vous voulez suivre l'hindouisme ou est-ce que vous voulez suivre la Bible ou le christianisme? Est-ce que d'où vient votre conviction? Voilà. Est-ce qu'elle vient de Dieu ou pas? Un autre principe, Romains 14, 14, donc dans le même chapitre, verset 14. « Je sais, je suis persuadé par le Seigneur Jésus, écrit Paul, que rien n'est impur en soi, rien n'est impur, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. » Donc, quelqu'un dira, moi, le porc, c'est une viande impure, c'est pour toi, peut-être, pour toi c'est impur, donc d'accord, n'en mange pas surtout, si c'est impur pour toi, n'en mange pas, ne te souille pas, mais supporte que ton frère ou à côté, lui, il ne voit pas le problème avec le porc. Voilà. Et c'est ça, ici, un grand principe. Hein. Si pour un aliment, le verset 15, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Donc, ce sont des mots très forts. Ce n'est pas parce que j'ai une certaine liberté avec les aliments que je dois mépriser le frère ou la sœur qui, lui, a moins de liberté. Donc, par exemple, un chrétien qui dit moi, je ne mange pas de viande halal, je ne veux pas participer à l'islam et tout ça. Donc, vous ne l'invitez pas chez vous en disant tiens, j'ai acheté un bon morceau de mouton halal ou une merguez halal pour que tu manges avec moi. Vous ne l'offensez pas, vous ne le choquez pas exprès en disant moi, je m'en fiche de toute façon. Vous respectez les convictions de votre frère, votre sœur, parce que Christ est mort pour lui. Et vous ne devez pas l'attrister, vous devez marcher dans l'amour. Donc on ne doit pas se battre sur des questions de nourriture, de manger ou de ne pas manger. C'est ça l'idée. Romains 14, 17, la conclusion de ce passage. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ça, c'est un grand principe. Qu'est-ce qui est important dans la vie? C'est manger et boire? Non. C'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Ça, c'est important. Ça, on doit l'entretenir. Mais si je mange ceci ou je ne mange pas cela, ça n'a aucune importance. Et on ne va pas se diviser là-dessus. Par contre, est-ce qu'on marche avec Dieu? Est-ce qu'on aime Dieu? Est-ce qu'on aime son frère ou sa sœur en Christ? Est-ce qu'on marche dans l'amour, dans la justice? Ça, c'est important. Même aussi lorsque on apporte l'évangile à d'autres, on doit respecter leurs convictions au sujet de la nourriture. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 20, l'apôtre Paul, qui est un juif qui croit en Jésus, hein, 1 Corinthiens 9, verset 20, « Avec les juifs, j'ai été comme les juifs, afin de gagner les juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. » Donc c'est les juifs, ceux qui sont sous la loi de Moïse. Mais avec ceux qui sont sans loi, c'est-à-dire les païens, j'ai été comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ. C'est quoi la loi de Christ pour le chrétien? L'amour, hein? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton Dieu et ton prochain. Afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile. Je fais tout à cause de l'évangile. Donc, Paul, lorsqu'il parlait de Jésus et de l'évangile à des juifs, des condisciples juifs, il n'était pas en train de manger un sandwich au jambon, sous leurs yeux. Hein, on avait un ami juif, ashkénaze, et qui était devenu chrétien. Et il avait parfois des attitudes que nous, on n'appréciait pas, on lui faisait, mais il avait une forte personnalité. Alors, quand il était accordeur de piano, quand il allait chez un client juif, il mettait bien en évidence son sandwich au jambon. Et puis il disait, moi je suis juif, mais je crois en Jésus, hein, je peux manger du jambon maintenant. Alors on disait, mais t'as pas compris la Bible là, tu dois pas choquer pour choquer. On doit respecter les convictions des autres. Si eux ne veulent pas manger de porc, il faut les respecter. Et Paul avait ce respect, et avec les païens, il respectait leurs convictions. Par contre, il ne s'enivrait pas avec les païens, évidemment. Hein. Un Corinthiens 10, 25, j'arrive vers la fin. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. On peut acheter et manger tout ce qui est au marché. 1 Timothée 4, ce sera le dernier verset de cette liste. 1 Timothée 4, versets 3 et 4, il parle de faux docteurs qui viendront à la fin des temps, qui prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Donc, il y a des faux docteurs qui disent il faut avoir un régime spécial si vous êtes chrétien. Voilà. Alors aujourd'hui, heureusement, on est un peu épargné en France, mais aux États-Unis, comme tout est prétexte à gagner de l'argent, vous avez le régime de Daniel qui se vend. Donc c'est un livre avec un DVD et ça dure 10 jours. Pourquoi? Parce que Daniel a dit, lorsqu'il était en captivité, il a dit au chef des eunuques, « Donne-moi 10 jours où je ne mangerai que des légumes et de l'eau. » Et tu verras si je n'ai pas meilleure santé que ceux à qui tu donnes de la viande et tout ça. Effectivement, au bout de 10 jours, Daniel et les Juifs et les Hébreux avaient un teint resplendissant alors qu'ils n'avaient mangé que des légumes et de l'eau. Alors, il y a quelqu'un qui a pris ça, il en a fait un livre et un DVD, il a dit, suivez mon régime de 10 jours et vous verrez, vous aurez un teint merveilleux et vous serez plus en forme que ceux qui mangent de la viande. Donc ça, c'est du commerce, ça n'a rien à voir avec la Bible. Il y a aussi ceux qui prônent le régime d'Éden. Alors, carrément, eux, ils vont à Éden, la Genèse. Manger que des fruits, des graines, des légumes, comme Adam et Ève. Et bien sûr, ils vont vous dire lesquels, parce que eux, ils connaissent lesquels. Ils ont dû, je sais pas, ils avaient un manuscrit de l'époque, hein, qui leur dit. Et vous devez payer 120 $ ou je sais pas combien, hein, pour avoir le régime d'Éden. Donc, les régimes, en fait, n'amènent à rien. Même les régimes non chrétiens, hein, ça n'amène qu'au yo-yo. C'est-à-dire, vous perdez un temps et puis vous regagnez ce que vous avez perdu. Il y a un seul régime dans la Bible qui est recommandé et que l'on doit retenir. C'est 1 Pierre 4, 7 qui nous le donne. Et maintenant, vous êtes tous là, dans le suspense. Alors, sachez que je vous le donne gratuitement. Je ne vous fais pas payer cette information. Le régime de la Bible, est-ce que vous pouvez me dire lequel est-ce? Quel est le régime de la Bible dans 1 Pierre 4, 7? Être sobre. Être sobre. C'est-à-dire aucun excès. Ni dans un côté, ni dans l'autre. Je pense, par exemple, il y a les régimes hyperprotéinés, ou gavés de protéines. C'est un excès, en fait. Alors on vous dit, mais si, tu verras, ça va te faire du bien. Les régimes hyper. Ou que des légumineux, ou que des fruits. Mais c'est un excès. Il y en a qui mangent trop de ceci, trop de cela. Un chrétien, ce qu'il doit apprendre, c'est vivre sobrement, équilibré. On mange de tout ce qui se vend au marché. Tout, ça veut dire justement équilibré. Si on mange que des McDo, que des steaks frites toute la semaine, toute la journée, avec des verres de Coca, ce n'est pas équilibré. Il y a un manque d'équilibre quelque part. Encore une fois, il y a d'autres choses plus importantes que manger, hein, mais Dieu nous appelle à être sobre. Les addictions sont mauvaises. Hein. Dieu dit, on est esclave de ce qui a triomphé de nous. Donc, si vous êtes addict d'un aliment, de quelque chose, essayez de vous en délivrer par la foi et par la prière. Dire, Seigneur, je ne veux pas être addict de telle ou telle chose. Il y en a qui boivent trop de café, il y en a qui mangent trop de ceci ou boivent pas assez de cela ou peu importe. Attention aussi à l'obsession de la nourriture. Donc, ceux qui sont très pris par les régimes, vont jusqu'à peser leur nourriture. Donc, ils ont une balance à la maison. Chaque fois qu'ils préparent un repas, c'est une opération de chimie de haut niveau, hein, avec des alambics et des trucs comme ça. Ils mettent les lunettes. On y va, on pèse 27 grammes de ceci, 33 grammes de cela. Ça devient une obsession. C'est-à-dire, on n'est plus en train de penser aux choses spirituelles, aux âmes perdues, aux personnes qui ont besoin. On est en train de penser à soi, rien qu'à soi. Et à des choses qui ne servent à rien. Parce que quand on va mourir, on va laisser tout ça. Hein. Le corps va redevenir poussière. À quoi ça sert d'avoir un corps de 20 ans à 80 ans si de toute façon il va aller dans la poussière? On est très centré sur le corps aujourd'hui et Dieu nous appelle à être centré sur l'âme, l'esprit, le cœur. Alors c'est vrai que notre régime occidental n'est pas très sobre. Nous mangeons trop probablement de viande. Trop de sucre, ça c'est certain, trop de sel aussi. Et il faut être sobre dans ces choses aussi. C'est-à-dire, quand vous faites la nourriture vous-même, vous prenez au marché des aliments, vous cuisinez, forcément ça va être sobre. C'est quand on achète des choses tout fait que là on se gave involontairement, hein, mais c'est comme ça, c'est l'industrie agroalimentaire, on se gave de sucre et de sel. Donc le chrétien doit être mesuré, être sobre. Si on n'a pas le temps de faire la cuisine, il vaut mieux s'occuper d'autre chose que de passer des heures derrière ses fourneaux. Il y a toutes ces émissions de télévisées. On dirait que la nourriture, la cuisine est devenue le centre principal des attentions. Ça ne mène à pas grand-chose. Ça n'apporte rien spirituellement et surtout pour l'éternité. Qu'est-ce qui a une importance pour l'éternité? C'est d'être sauvé. C'est d'être réconcilié avec Dieu. Le jour où on va rencontrer Dieu après la mort, Est-ce qu'il va nous dire, est-ce que tu as fait un régime du camp ou est-ce que tu as été mince toute ta vie? Non. Le Seigneur va dire, qu'est-ce que tu as fait de mon fils Jésus-Christ? Le Seigneur va dire, est-ce que tu as été dans le péché toute ta vie? Ou est-ce qu'un jour tu t'es repenti? Est-ce qu'un jour tu as reconnu que tu m'as offensé et tu es revenu vers moi? Est-ce que tu t'es occupé de ton âme? Est-ce que tu as laissé ton âme envahie de choses horribles, d'orgueil, d'impureté? Ou est-ce que tu as cherché la pureté de l'âme? Et la pureté de l'âme, nous savons, elle s'obtient par la foi en Jésus-Christ. C'est lui qui, en mourant sur la croix, eh bien, nous octroie cette pureté. Il nous lave de tous nos péchés et il lave notre conscience, notre cœur. On devient pur, purifié par la foi en Jésus-Christ. Et c'est ça qui compte, qui est le plus important. Bien sûr, c'est gratuit, justement. Ça ne se vend pas. Ça n'est pas un sujet de commerce. C'est totalement gratuit. Combien c'est merveilleux d'avoir le salut de son âme gratuitement par la foi en Jésus-Christ. Que Dieu soit loué pour la création, pour toute la nourriture qui est archi-abondante sur la terre. Les famines sont dues aux politiques, ne sont pas dues à la création, ce sont dues aux hommes politiques. Mais nous avons assez pour manger, pour boire, pour vivre. Nous devons rendre grâce à Dieu à chaque repas pour l'eau que nous avons. Avoir de l'eau, vous savez, c'est un luxe. De l'eau pure, de l'eau potable. Pour la nourriture qu'il nous donne. Et surtout dans notre pays où nous sommes si gâtés en nourriture, nous devons être reconnaissants à Dieu. Merci de votre attention. Je vais laisser Romuald conduire dans les dernières strophes du chant.
Donc nous allons chanter les deux dernières strophes du signal de la victoire. Merci d'être venu. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne soirée.